Vous écoutez
RMC.
RMC.
Je pense que le fait de s'être craché de cette manière-là, ça nous a remis les épaules sur la tête.
On a attendu une fois la gifle, on va pas attendre la deuxième.
Mais j'espère que la retourne va vite tourner pour lui et surtout pour nous, parce que ça, on en a besoin.
C'est vrai que pour le moment, je suis en train de profiter. Comme on dit, les malheurs des autres font les bonheurs des autres. Et pour le moment, je suis en train de profiter.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
Nicolas Jamain.
Bonsoir à toutes et à tous. Et oui, l'after est là jusqu'à minuit sur RMC. L'after, la seule émission en direct, 7 jours sur 7. Bonjour à toi qui nous écoute en podcast. Il va faire beau ce week-end en plus, donc tu es peut-être en train de faire un footing. Toi, afterien, peut-être que tu regardes une série avec madame. Peut-être que tu biberonnes ton enfant. Mais nous, on est là, en direct jusqu'à minuit à la radio sur RMC. Casting du soir, bonsoir Jonathan Macardy.
Salut tout le monde.
Bonsoir Kevin Diaz.
Salut à tous.
Une victoire importante. Je ne vais pas dire capitale et décisive, parce que ça ne veut rien dire. Mais Lille s'est imposé 3 buts à 0 à Lens. Après 37 journées, Lille compte 4 points d'avance sur le PSG, qui n'en a joué que 36 pour l'instant. On va débriefer ça. Des faits de match, des décisions arbitrales, contestées, contestables. Beaucoup de choses à dire. On va parler bien sûr du Kral de Burak Yılmaz, le roi de Turquie, exceptionnel, encore une fois, un doublé. Appelez-nous supporters lillois au 32-16. Appelez-nous aussi supporters lensois, vous êtes en colère. C'est ce que je vois sur l'hashtag RMC Live. Et puis, on va bien sûr évoquer le départ, ça y est, de Flotov, comme on l'appelle à Marseille. Florent Thauvin va donc quitter l'OM pour rejoindre Gignac au Mexique, au Tigresse de Monterrey. Flo Germain sera avec nous pour nous expliquer le pourquoi de cette décision de Flotov à seulement 28 ans. Est-ce qu'il crame sa carrière? Est-ce que c'est une question d'argent uniquement? Est-ce qu'il veut faire Marseille? On va en débattre. Appelez-nous ce matin à Marseille au 32-16, bien sûr. Et puis les infos du jour à venir, la sanction contre les mutins de la Super League et les infos OL, tiens, avant demain la réception de Lorient. Le 32-16 de hashtag RMC Live sur Twitter et bien sûr l'application RMC Direct Studio. On vous attend nombreux, n'hésitez pas. Jingle 3 points.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Ouais.
Kevin.
Bah écoute, en premier, c'est Lille qui est sur l'autoroute maintenant. Hein, il va falloir juste appuyer sur le champignon et aller finir ce championnat. En deux, c'est quand même Burak, parce que Burak, c'est tellement mon foot. Du caractère, de l'efficacité, la technique au service du collectif, moi j'adore. Et en trois, c'est quand même le match de demain, Nantes-Bordeaux, le match de la peur. Attention,
mais oui,
appelez Stéphane Bern parce que monument en péril.
Je suis content que tu dis ça parce que je pense à Daniel Riolo qui a dit ici même il y a quasi 6 jours, mais à Bordeaux c'est bon maintenant, le projet, la reconstruction, le rachat, non, c'est pas.
Perdre demain, c'est compliqué.
Jonathan.
Le premier point, c'est la victoire lilloise, évidemment, qui est une victoire de champion. Alors, il reste 2 matchs, il faudra pas se louper contre Saint-Etienne et Angers. Mais quand on a dit que c'était Saint-Etienne et Angers, on a du mal à voir Lille ne pas être couronnée en fin de saison. Une saison qui sera une saison totalement blanche pour le Paris Saint-Germain, à noter. Le deuxième point, c'est
la
signature.
Y a encore la coupe pour le PSG.
Oui, c'est vrai. Mais bon, championnat, Ligue des Champions. Le deuxième point, c'est la signature de Florent Thauvin au Mexique. Je trouve que c'est un excellent choix pour lui. C'est un excellent choix pour sa carrière. C'est pas du tout mettre fin à sa carrière. Au contraire,
quand
on voit la réussite d'André-Pierre Gignac, je suis très heureux. Et je lui dis juste une chose à Florent Thauvin, parce que je l'ai beaucoup crépissé dans la semaine, c'est un grand merci pour tout ce qu'il a fait l'Olympique de Marseille. On n'oubliera pas notamment dans quelles circonstances il est revenu de Newcastle. Et mon troisième point, c'est juste un hommage à Christophe Revault, qui est un gardien qui c'était un peu, voilà, quand j'étais adolescent, ça faisait partie des têtes, des visages de la Ligue 1. C'est quelqu'un qui apparemment était apprécié par tout le monde. Donc voilà,
une autre génération, ça.
Un hommage à lui et puis force à sa famille, surtout.
49 ans disparu, Christophe Revault, ancien gardien du Havre, du PSG, de Toulouse.
De Rennes.
Notamment de Rennes, bien sûr. Hein, une grande vague de témoignages et de soutien à sa famille. Bien sûr, c'est vrai que c'est notre. On l'a vu jouer des matchs et des matchs. Et on l'a vu énorme aussi, ce gardien.
Pour ceux qui ont oublié.
Ouais, non mais attends, à une époque, c'était plus spectaculaire. Était efficace.
Non, mais c'était. On parlait de lui en équipe de France, même à un moment. Oui. Oui, non, mais il faisait partie de. On disait, on a quand même des bons gardiens parce qu'un mec comme lui est pas sélectionné. Alors, le passage au Paris Saint-Germain est un peu mitigé, je dirais. Mais il avait un style qui était, voilà, typiquement gardien français des années 2000, quoi.
Lille s'impose 3-0 à Bollaert. Après sur le classement, avant d'évoquer l'effet de ce match, de vous accueillir, supporters lillois et lensois au 32-16 dans l'after. Lille après 36 journées, 37 journées. 36, pardon, qu'est-ce que je disais tout à l'heure, 79 points, 4 points de plus que le PSG, un match en moins bien sûr, 75 points. Monaco, hein, évidemment, 3e lâché, 71 points. Voilà, première ou deuxième place, officiellement assurée pour le LOSC, je crois qu'il n'y a pas trop de débat là-dessus. Lyon, 4e, on en parlait tout à l'heure, avec 70 points. Sur le match 3-0 donc, doublé d'Ilmaz, un but de Jonathan David, à la 60e minute de jeu. Important, bien sûr, ce carton rouge pour deux cartons jaunes. À l'encontre de Michelin. On va en parler dans un instant, notamment du deuxième carton jaune, savoir ce que vous en pensez, s'il est sévère ou pas. On attend vos réactions supporters, Lensois. D'abord, sur le match, les gars, pas facile d'analyser ce genre de match, hein, quand tu joues à 11 contre 10 pendant quasiment une heure. Qu'avez-vous pensé de la prestation lilloise?
Écoute, moi je trouve que les Lillois, de toute façon, ils ont fait une chose qui est importante, c'est-à-dire qu'ils sont bien rentrés dans ce match et dès la première minute, ils ont pressé, ils ont mis de l'envie, de l'agressivité. Après, bien sûr, on parle de ce phénomène qui en football est un peu difficile à décrire. On l'appelle un peu vulgairement la chance du champion, mais il y a un carambolage entre deux Lensois et finalement il déséquilibre le Lillois qui l'arbitre qui siffle, il est pas obligé de siffler. Après, c'est son choix. Derrière, Yilmaz qui te transforme ça. Que franchement, j'ai pas vu un penalty mieux tiré cette saison, pleine lucarne quasi.
Touche le poteau quand même.
Ouais, mais poteau rentrant, c'est imparable.
Oui, mais bon.
Et ensuite, t'as un carton rouge qui est encore une fois qui est un peu sévère parce que Michelin qui s'était déjà fait exclure au match aller. Là, franchement, bon, il rentre dans ce duel, mais l'arbitre, il est pas obligé de mettre un deuxième carton jaune.
Il choisit le premier sur le
le
tacle est pas si dur que ça. Le deuxième carton le deuxième carton jaune, il est mérité. Le premier, t'es en début de match, parce que tu vas preuve d'un petit peu de psychologie.
Moi, je trouve pas. Tu vas dans un duel. Oui, il y a la main dans la nuque de ton adversaire, mais tu vois que c'est rien de méchant. Et quand tu viens de prendre un carton jaune avant, c'est plus difficile, à mon avis, de mettre le deuxième.
C'est dur, moi.
Mais derrière, il y a la frappe de Yilmaz. Parce que le tournant de ce match, pour moi, c'est quand même la frappe de Yilmaz qui tue tous les espoirs, quoi. Parce que t'as déjà vu des équipes qui, à 10 contre 11, arrivent à revenir dans un match. Ça arrive tous les week-ends. Mais là, la frappe du gauche, en plus, cette cheville qui est verrouillée, le ballon qui bouge pas, Leka qui regarde le ballon finir dans la lucarne.
Mais d'ailleurs, lui, il est pied droit, pied gauche, le garçon, là.
Ouais, non, mais c'est un phénomène.
C'est extraordinaire.
Je vais en parler.
Il a la même précision et puissance pied droit que pied gauche.
C'est un phénomène. Vraiment.
Il faut quand même.
Parlons-en, Jonathan. Je ne parle dans un instant. Ils sont rares, ces joueurs-là, quand même.
Mais en fait,
avoir une telle puissance et précision des deux pieds, ils sont extrêmement rares.
Pendant le match, forcément, on a eu un peu de temps mort, donc j'ai regardé vraiment en détail la carrière de Burak Yilmaz. Finalement, c'est un joueur qui fait partie de ces attaquants qui ont une maturité tardive. Il signe son premier contrat professionnel à 18 ans avec son club formateur qui est Antalya Sport, mais c'est qu'à partir vraiment de 25-26 ans qu'il commence vraiment à atteindre le plus haut niveau. Et on se demande souvent avec Burak Yilmaz, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas été signé en Angleterre, en Allemagne, dans un grand club? C'est parce que ces grands clubs, ils veulent souvent des jeunes joueurs. Mais lui, c'est quelqu'un qui a éclos un peu tard. Et donc, il est arrivé à 25 ans. Et à 25 ans, il signe d'abord à Beşiktaş. Il fait 55 matchs, il marque 7 buts. Ensuite, il signe à Fener, il fait un match en 2 ans. Donc, il a du mal à vraiment.
Il est prêté quand il est au Fener.
Et ensuite, il est prêté, mais c'est surtout à Trabzonspor, dans un club un peu plus populaire où il y a un peu moins de pression en Turquie, que là, il fait 63 buts en 93 matchs. Et ensuite, il enchaîne Galatasaray, la Chine, il éclose tout. Il revient à Trabzonspor, il rééclate tout à Beşiktaş et à Lille maintenant. Mais voilà, ça fait partie de ces attaquants qui, un peu à l'image de ce qu'a fait dans sa carrière Olivier Giroud, qui est arrivé assez tard au plus haut niveau et qui, derrière, a fait une très, très belle carrière.
C'est un bon joueur. Après, franchement, sur le match, pour rester sur le match, je veux pas que ça devienne récurrent, mais Turpin est minable, quoi, ce soir. Je pense qu'il dans la tenue des matchs et sur, ça fait quand même un petit moment que c'est censé être la tête de gondole de l'arbitrage français. Je trouve qu'il manque de tout, de psychologie, de lecture, de lecture justement de ce qui se passe dans un match, dans le scénario. Quand il donne le deuxième carton de Michelin, j'étais sûr qu'il allait lui donner parce que c'est typiquement le move type de Clément Turpin, c'est-à-dire ne pas réfléchir, ne pas faire preuve d'un minimum de psychologie. Et ce qui est dommage, c'est que ce match, rappelez-vous, la semaine dernière, on était tout excités à l'idée de voir ce match-là. Les Lensois, la fougue lensoise, un Lens motivé pour la 5e place, Lille qui joue le titre. Et au final, le match, il s'est arrêté. Il s'est arrêté au bout de la 30e minute. On a eu que 30 minutes de ce match-là. Alors certes, le LOSC était supérieur, mais Clément Turpin, si on prend ses 10 dernières prestations, je sais pas quelle note il obtient, mais il est catastrophique. Bah, et je sais qu'on, dans l'after, traditionnellement, on ne parle pas de l'arbitrage, mais là, quand un arbitre, de par ses mauvais choix, a un impact aussi négatif sur un match, il faut le dire. Et surtout, quand c'est pas la première fois, il y en a marre. Oui, il y en a vraiment marre d'avoir des arbitres médiocres en Ligue 1.
Énorme coup de gueule de Jean-Louis Leca, le gardien de Lens, qu'on écoutera dans un instant. Mais vas-y, après, Kevin, après on accueille Eric
Autran de 16. Là, je trouve un peu dur, Jo, c'est quand tu parles de minable, parce que il y a des choses.
C'est l'accumulation qui est minable.
Je suis d'accord, parce que il y a un truc dans ce match, et ça a été aussi le cas lors du dernier match entre Lyon et Monaco. Un arbitre, on ne doit pas le voir, en fait. Et le problème, c'est que Clément Turpin, il est trop souvent protagoniste. Ça, c'est un souci. Maintenant, sur le deuxième carton jaune, et j'en ai parlé avec un arbitre que je salue au bord d'un terrain samedi dernier, il nous disait que devant les bandes touches, c'est une zone sensible pour les arbitres. C'est connu, ça s'appelle la zone sensible. Et en fait, tu vois, t'as tout de suite Galtier qui, forcément, ça, c'est le jeu, il gueule avec ses adjoints et tout. C'est vrai que le bras, c'est un peu impressionnant, mais c'est là où l'arbitre, il doit garder son calme, il doit analyser la situation, il doit se rappeler que le pénalty, peut-être qu'il y a un contact, mais c'est sévère. Le premier carton, il était il y a 2 minutes. C'était pas non plus un attentat.
Il était sévère, le premier carton.
Donc, le deuxième carton, c'est vrai que pour moi, il doit faire preuve d'un peu de pédagogie, un peu de recul et de ne pas le donner.
J'accueille Eric au 32-16, supporter du LOSC. Salut Eric et bienvenue dans l'after.
Salut Eric.
Bonsoir à tous.
Heureux de t'accueillir Eric.
Encore une super soirée, hein, purée, c'est vraiment excellent. Hein.
Bah oui,
c'est ce qu'on dit, faut que Lens s'y reste en Ligue 1, c'est vraiment important pour nous, quoi.
Bah non, mais 7-0 aller-retour.
Ouais, c'est clair. Et puis, c'est fantastique. Merci à eux, c'est vraiment super sympa. Mais en fait, il y avait deux matchs ce soir. Il y avait le derby et le match dans la continuité du titre. Et en fait, je trouve que dans l'analyse, il faut faire les deux. Sur le derby. En fait, en gros, c'est très bien, ils sont arrivés gonflés à bloc, le public lensois en a fait des caisses, peut-être même un peu trop en mode anti-lillois, on va les empêcher de gagner le titre et tout ça. Bon, très bien, voilà. Je suis d'accord sur le fait que l'arbitrage a joué, mais au fond, moi j'ai senti mon équipe très très forte parce que oui. En fait, ils nous ont fait du Lille. C'est-à-dire qu'en gros, alors 1-0, peu importe le contexte, on a subi. Mais comme toujours. Et quand Lille subit à ce moment-là, eh ben moi je me sens super bien. Je suis super rassuré parce que c'est comme ça que ça marche. On sait subir, il n'y a pas de problème, il y a Maignan qui va gérer tout ça. Et puis tu sais très bien que derrière ils vont manger. Ça, c'est un truc qui dégage. Et en plus, tu sens qu'en fait c'est une manière presque de digérer l'adversaire. Tu vois que on a l'impression que c'est presque calculé. Donc ça, j'ai trouvé ça fantastique de voir mon équipe en difficulté. Mais absorber ça tranquillement et tout. Botman était beaucoup plus fébrile que d'habitude. Ça nous a fait peur. Celic, il est un peu irrégulier, mais malgré tout, encore une fois, et sans Benjamin André, c'est pas mal. Derrière, on peut gérer, il n'y a pas de problème. On a une équipe qui sent la sérénité, ça tourne et tout ça. Donc, d'un point de vue, dans la perspective du titre, c'est vraiment... Ouais. Super match, quoi. Franchement, excellent.
Et c'est un super coup. On parlera tout à l'heure de Paris qui... sera à Rennes ce week-end, donc c'est pas gagné pour Paris. Je rappelle que si Paris fait même match nul, perd contre Rennes, Lille pourrait être champion dès le week-end prochain, lors de l'avant-dernière journée de Ligue 1. Même si Paris gagne le week-end prochain et Lille aussi, Lille sera
bouclé, Lille sera champion. C'est terminé.
Ouais, ça c'est vrai.
Oui, voilà.
Après, par rapport à ce que tu dis, Eric, il y a une chose qu'on avait déjà notée la semaine dernière en analysant le match de Lille, c'est que outre la qualité de jeu, parce que c'est une équipe qui joue bien, qui a du moins de la personnalité, qui a des schémas identifiés.
Je suis d'accord avec ça, moi.
Ouais, mais pour moi,
personnalité plus que
dire bien jouer, ça reste un peu relatif et subjectif. Le plus important, c'est la personnalité. Mais ce qui est quand même important,
oui, ça s'appelle bien jouer au foot.
Oui, aussi. Mais ce qui est important, et c'est là, on a vu, c'est sur l'entame de match, c'est le caractère qu'a cette équipe. T'as une équipe qui est hyper déterminée à aller chercher le titre. L'entame de match sur les 5 premières minutes, Lens touche pas un ballon.
Exactement.
Vraiment, il touche pas un ballon. Le premier ballon qu'il touche, c'est pour engager auprès de l'ouverture du score. Donc ça veut quand même dire quelque chose, c'est que cette équipe, elle est vraiment en mode commando. Mmh. Et ça me fait penser un petit peu au sentiment et à la comment dire, à l'aura que dégageait par exemple Marseille en 2010, l'année du titre, où tu avais l'impression que cette équipe elle était en mission, qu'il pouvait rien lui arriver.
Montpellier,
là c'est la même chose.
Bordeaux,
Montpellier, c'était autre chose encore.
Si Montpellier va le chercher en fin de saison, c'est fou.
Oui,
quoi.
Mais avec Giroud, c'était pas la même impression.
Et tu sais pourquoi je les compare à Montpellier, et je l'ai fait pendant le match en fait, c'est parce que non seulement Montpellier fait un énorme match
Paris,
au parc.
Par rapport à Paris.
Ils font un énorme match au parc cette année.
Belanda qui est énorme.
Paris qui change d'entraîneur au mois de décembre. Là, c'est pareil. T'as un Giroud qui est on fire, qui réussit tout. Je me rappelle des frappes, ça partait dans tous les sens, ça finissait tout le temps sous la barre.
Mais c'était pas le mode commando qui se dégageait. Montpellier, ça me faisait penser vraiment à la bande de copains qui.
Oui, mais quand tu regardes les matchs, on avait fait une émission spéciale là-dessus l'été dernier sur le titre de Montpellier. Ouais. Et vraiment, tu vois, quand tu revois tous les replays des matchs, ils vont les chercher. Et notamment lors de la dernière journée avec Giroud qui tape un sprint, qui s'arrache.
Moi, je trouve vraiment que ce titre, entre ce qui se passe au Paris Saint-Germain et ce qui se passe à Lille, avec des joueurs qu'on n'attendait pas du tout, il y a un entraîneur qui faisait du bon travail depuis quelques années, comme Galtier.
C'était encore plus inattendu, Montpellier, quand même.
Bien sûr. Mais tu dis, c'est Marseille. Je ne ramène pas tout à Bordeaux, bien sûr, mais Bordeaux, comme Bordeaux est champion 2009, c'est pareil. Ils sont habités par une conviction qu'ils vont le faire. Ils s'arrachent. Je crois qu'ils finissent sur 12 victoires consécutives en 2009. C'est pareil. Tu sens que chez Lille, que Lille est habité par cette conquête du titre. Et tu sens des débuts du match, en fait.
Il y a une impression de force.
Eric, est-ce que tu vas te faire tatouer le nom de Burak Yılmaz ou le Kral sur le droit
Tu vas au moins acheter son maillot, rassure-moi.
Franchement, les gars, acheter le maillot de ce mec, c'est pas possible.
C'est fou parce que ça va beaucoup plus loin que ça. Là, ma femme, elle est dans la chambre en train de faire la tête.
Je suis pas vivre en Turquie.
Elle fait la tête.
Elle fait la tête parce que elle attend nos premiers enfants. Il y a un garçon. Moi, il n'est même pas question qu'il n'ait pas Burak dans son nom. Si elle veut bien faire français ou je sais pas quoi, elle fait Jean Burak, Pierre Burak, je m'en tape.
Pierre Burak.
C'est famille un peu classique et tout. Donc moi, je comprends, tu vois. Mais quand le destin te met un truc comme ça dans ta vie, tu ne peux pas ne pas saisir ça, parce que au fond, on va lui trouver quoi comme prénom et tout ça. C'est Burak, c'est sûr, tu vois. C'est ça qui est tombé. Et alors, j'espère que tous les Lillois m'écoutent et qu'il y aura un boom des Burak l'année prochaine, comme on a eu un boom des Eden.
Ou des Jezen.
Elle s'appelle comment ta femme?
Inès,
si tu nous entends, déconne pas, accède à la demande d'Eric.
Peut-être pas sur un premier prénom, Inès.
Pierre Burak, j'aime beaucoup, moi. Inès.
Eric, franchement, il a pas un deuxième prénom, Burak, un truc un peu plus. Ta femme, elle va aimer, je sais pas.
Il s'appelle Burak, c'est le meilleur joueur de l'histoire du football. Bon, voilà, c'est tout, c'est comme ça.
J'avoue, c'est pas simple à porter non plus. Burak, en Turquie, certainement. Quand il y a une grande communauté turque à Lille également.
Pierre Burak, c'est pas mal comme il a dit.
Eric, on te lance ce défi-là. Hein. On veut pas non plus influer sur ta décision. Voilà.
Elle est à combien de monde?
Tu nous envoies le faire part de naissance à RMC au nom de Kevin, Jonathan et moi.
Il n'y a pas de défi à lancer, ça c'est fait. Et puis elle n'a pas son mot à dire, puisque de toute façon, comment ça se passe? En gros, la femme accouche à la maternité. Il me semble que c'est
L'homme qui va déposer à l'état civil, bien sûr, à la mairie.
Elle va me faire quoi une fois que ce sera fait? Elle va quand même pas me quitter, elle a deux enfants, la pauvre.
Elle a combien de mois, là?
Ça va, je t'en pose des questions. J'en sais rien. Dans 3 mois et demi, 4 mois, peut-être un truc comme ça.
Oh, d'accord,
ça va. Mais ça va, t'as le temps,
En tout cas, on veut le faire par naissance, absolument. Pierre Burak, pourquoi pas.
Ouais, Pierre Burak,
super intéressant.
Je suis pas pour Pierre Burak, hein. C'est si vraiment elle veut que ça fasse quand même un peu.
Laisse Inès choisir le premier prénom. Ouais. Et toi, tu obtiens Genko sur le deuxième prénom.
Moi, je m'appelle Kevin pour Kevin Keegan.
Oui, remarque, ouais. Oui, Kevin, c'est un peu plus.
Et je te parle pas de tous les Johan qu'il y a en France.
Ah oui, bien sûr, t'as raison.
Pour Gourcuff. C'est ça.
Moi, j'appellerais mon petit garçon Tyson.
Ah oui, c'est normal.
Tyson Fury.
Merci Eric, tu nous as régalé ce soir.
Eric, t'es magnifique.
Bonne soirée à tous.
Et la bise à Inès.
Ils vont passer une très bonne soirée. Bon, les Lensois, désolé, mais au final, franchement, ils doivent être habitués maintenant. Je suis sûr que ça leur fait plus rien. Donc voilà. Bonne soirée à tous. Et allez Lille pour ce super titre.
À venir peut-être. Ciao. Merci Eric, excellente soirée à toi. Et bonsoir à Inès également qui nous écoute peut-être. David est avec nous au 32-16. Salut David.
Salut l'after.
Supporter du LOSC, bienvenue dans l'after du vendredi soir.
Ça c'est le LOSC. Vous vous rappelez de ça?
Ouais, carrément.
Bien sûr, t'as raison. C'était pas ce qu'on a plus réussi à Lille, quoi. En tout cas, voilà. Alors, comment tu vis cette soirée, toi? Et à deux journées de la fin, d'avoir 4 points d'avance sur le PSG.
Bah, formidable, hein. Non, c'est génial, c'est top. Je voulais intervenir en 3 points un petit peu.
Vas-y.
Premier point d'abord, c'est sur l'équipe, en dehors du derby, tout ça, vraiment sur l'équipe LOSC, sur notre effectif, sur notre jeu, sur ce qu'on produit depuis, maintenant on peut dire depuis le début de la saison. On mérite vraiment d'être champion. Ça fait un moment que je me dis, on a le 4e effectif, mais au final, on a la meilleure équipe de Ligue 1 cette année, quoi. On assure tous nos matchs et encore ce soir on tape un grand coup. De toute façon depuis Lyon il y a eu un gros tournant Et là, ce soir, je pense qu'on, on enfonce un peu le clou puisque sur les analyses, tout ça, c'était le match un peu piège contre Lens. Et bah, là, ça sent très très bon, quoi. Ensuite, en deuxième point, Bourak. Bon, ce mec-là, faut lui faire une statue, hein, c'est pas possible. Il est au sommet de son art, Bourak Yılmaz. Ce qui nous fait encore ce soir le but qui claque, c'est zlatanesque, quoi.
T'as réagi comment sur le but là?
Ah bon, forcément avec la situation actuelle, on vit ça dans le canapé, mais ouais, j'ai sauté partout. Hein. C'est énorme. Ah non, c'est génial. C'est juste frustrant du coup de pas pouvoir vivre ce genre d'émotion au stade avec tous les supporters, mais ça n'en sera que plus beau l'année prochaine. L'année prochaine, sera plein 99% du temps, je pense.
C'est vrai que t'as dit quelque chose sans vouloir les comparer en termes de talent ou de carrière, mais il a du Zlatan mais gentil. Tu vois, Zlatan, mais avec moins de mauvais côtés, quoi.
Sur le terrain, il est pas cool avec ses coéquipiers.
Hein. Il est pas cool avec ses coéquipiers, mais il respecte quand même l'adversaire. Tu vois, il a pas de déclaration comme ça. Et c'est vrai que c'est un joueur qui a un tel leadership. C'est pour ça que je disais que moi, c'est complètement mon football. C'est un joueur qui est technique. Hein. Il garde les ballons, il fait jouer l'équipe. Franchement, il pourrait servir à beaucoup de top clubs en Europe aujourd'hui, hein, parce que sa capacité à garder les ballons, à renverser le jeu. Oui, il râle sur ses partenaires, mais c'est toujours dans le bon état d'esprit. J'ai pas l'impression qu'il lui en tienne rigueur et derrière voilà il est je disais la semaine dernière qu'il est touché par une forme de grâce, mais là il a été béni des dieux du football parce que franchement mettre ce but, cette frappe du gauche, il est à 30 mètres, mais elle est incroyable cette frappe, c'est un début de l'année, même le penalty, mais parce qu'il faut le tirer, c'est ce penalty, tu vois, c'est important au bout de 2 minutes de jeu comme ça. Tu sais que si tu marques, tu fais un grand pas en avant dans ce genre de match. Et il la frappe comme. Et la réaction de Jean-Louis Leca, elle est intéressante. C'est qu'en fait, il lève la main après le penalty, de dire vas-y, elle est imparable celle-là, tu vois.
Il peut rien faire.
Ouais, ils ont procédé à ses défenseurs aussi milieu de terrain qui, selon lui, montent pas assez vite sur le
penalty.
Ah, pendant le penalty, autant pour moi.
Juste pour finir sur Bourak, j'allais dire aussi, j'entendais des choses intéressantes sur son parcours, sur sa carrière. Comme quoi, quand il était plus jeune, il a eu du mal à démarrer, qu'il a vraiment
plus tard à
Trabzonspor. Mais en fait, je pense que ce mec-là, il a 35 ans, mais il est au sommet de son football. C'est maintenant qu'il s'affirme à son meilleur niveau, et tant mieux pour nous, tant mieux pour Lille.
Hein. Deux autres contrats, hein. Il était quand même énorme aussi en Turquie avant. Hein.
Oui. Là, cette année, s'il nous rapporte un titre de champion de France, je pense que ça fera une belle grosse ligne sur ce.
Non, mais c'est une des recrues en Ligue 1 de la décennie, ce mec. Gratuit, 2 ans de contrat, salaire quand même. Je regardais, il a 5 millions 100 000 sur 2 ans.
Oui, mais
sur
2 ans. Et sur 2 ans, 2 millions 5 par an. Il arrive gratuit, les gars.
Brut.
Ouais. Il arrive gratuit.
Ouais, puis,
il doit signer une très signature aussi.
Non, mais franchement, il remplace.
Il faut dire ce qu'il y a.
C'était un très bon joueur, mais je veux dire, on fait x5.
C'est au gars-là qu'il était énorme.
Oui, t'as raison. Il vient parce que Luc Rémy, on l'a déjà dit dans l'after du week-end.
Non, mais
il décide de ne pas prolonger.
Le choix de le prendre, c'est un coup de génie.
C'est gratuit en plus.
Oui, mais c'est un coup de génie. Apparemment, il y avait un de ses représentants qui est passé dans l'after de la semaine, là, qui disait qu'il avait été proposé à d'autres clubs. Après, je peux même pas reprocher à des clubs de pas avoir, parce que moi, au début, Bourak Yılmaz à 35 ans, on va pas se le cacher. Il y a beaucoup de gens qui étaient un peu dubitatifs. On attendait de voir et on a vu. Et donc, bravo à Campos, bravo à la cellule de recrutement de Lille et derrière, bravo à Galtier de l'avoir parfaitement inclus dans ce projet.
Bon, il y a aussi un homme qui réussit quand même pour sa première saison, David, je sais pas ce que t'en penses. Ça a été long à se lancer. Bah c'est un vrai diesel, Jonathan David.
Il
fait un deuxième semestre.
Lui, je pense qu'il va être posé l'année prochaine.
Ouais. Le problème. Vas-y.
Excuse-moi. Ouais, non, j'allais dire, lui, il montre des belles qualités. Techniquement, il est quand même assez doué.
Ah, oui.
On voit là sur son but, à l'enchaînement, il est très rapide, tout ça. Je pense qu'il va continuer à prendre ses marques et ce mec-là, ça m'étonnerait pas qu'il explose vraiment l'année prochaine et qu'il fasse une saison de folie l'année prochaine.
C'est très possible.
Ce qu'il faudra, c'est bien, maintenant, bien appréhender quel est son poste. Beaucoup de gens pensaient qu'il arrivait pour jouer numéro 9 alors que c'est pas vraiment un numéro 9.
Il est plus en soutien.
C'est plus un attaquant de soutien, voire numéro 10. Ouais. C'est là où il jouait quand il était à la Gantoise. Mais, non, c'est très prometteur et puis surtout c'est une bonne leçon et une bonne piqûre de rappel pour tous les gens qui ont tendance à juger trop vite les recrues qui arrivent dans les clubs de Ligue 1. Quand t'as un gamin qui arrive, qui a 20 ans, qui a connu juste un seul club, qui arrive dans un projet comme le LOSC, évidemment il y a forcément un petit peu de temps d'adaptation. Ouais. C'est tout à fait normal.
Mais on dira à la fin que c'est une saison réussie malgré tout pour Jonathan David.
Il a mis 13 buts.
Là, je crois qu'il a 12 12 ou 13.
13 avec le résultat ce soir.
15 pour Yilmaz, 5 passes. Voilà.
Et puis, il y a juste quelque chose pour finir, ce que je disais tout à l'heure, entre les lignes, c'est Aurélien et Djibo qui me donnaient cette stat. J'avoue que je ne l'avais pas noté. Avec ce soir, ça fait 19 clean sheets
dans
pour
la
20e, Lille.
C'est la 20e, je crois. Ah
ouais, c'est le 19e, je crois, qu'ils étaient.
Non, c'est la 20e, c'est la
20e. C'est la 20e clean sheet. Ouais, c'est ça, 20e clean sheet. Tu peux finir à 22. Matchs, hein. Non, mais c'est incroyable. Seul le PSG qui écrasait la Ligue 1 là, en 2015-2016 avait fait deux fois, je crois, 22 et 23. Mais c'est ouf quand même pour cette équipe de Lille.
Et pour moi, la défense, aussi, elle est forte.
Ça reste quand même bien joué au foot parce qu'il y a des équipes qui défendent, mais ne pas prendre de but, c'est quand même quelque chose, quoi.
La défense, on l'a pas assez dit, mais les quatre derrière, ils sont quand même très, 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 très complémentaires et très bons.
Reynildo qui finit la saison comme Jaja.
Reynildo, il est très beau, il est une super. Mais c'est surtout la charnière que j'aime beaucoup, c'est sobre, hein. C'est fond de Bodman, c'est pas.
C'est un équilibre qui a été.
Puis, accessoirement, t'as un gardien ultra décisif cette saison aussi. Qui est un monstre, Kevin.
C'est un monstre.
Mais les relances. Il sera pas là la saison prochaine.
Les relances à la main qu'il fait, même la semaine dernière.
Bien sûr de ça.
Ces relances à la main de 50 mètres et encore aujourd'hui ou même une fois carrément. Je pense que les Lensois ont dû voir ça à la vidéo parce qu'ils l'ont retenu, ils ont fait faute sur lui pour pas qu'il puisse relancer vite à la main. Mais c'est une arme incroyable, un gardien à la main qui est au pied, bien sûr, mais même à la main, qui est capable de lancer une phase de transition de façon aussi rapide et aussi précise. C'est
moi, je suis pas sûr, hein, parce que il est pas là, donc on en parlera avec Fred demain. Mais Fred qui disait qu'il fallait absolument qu'il aille au Milan. Écoute, quand on voit la fin de saison du Milan, je sais pas, tu vois. Ouais, ça va être compliqué pour la Ligue des Champions. Ça peut être
un
compliqué.
Accord aurait déjà été trouvé entre le Milan et Mike Maignan.
J'ai du mal à comprendre ce choix, moi.
Ouais, on en a déjà parlé.
Le problème, c'est qu'en fait, je peux te l'expliquer parce que j'y ai déjà pensé. Le souci, c'est qu'en Angleterre, en fait, il n'y a pas de place. Je pense que sa place sera en Angleterre, mais il n'y a pas de place.
Ça vaut pas le coup d'attendre, du coup?
Ah ouais, mais attendre, ouais, peut-être, mais après,
c'est ce que je pense.
Peut-être que Lille veut aussi, s'ils peuvent garder. Oui. Moi aussi, je serais d'avis à le garder.
Non, tu fais une saison encore. Parce que je pense qu'il va prendre Kevin, je pense qu'il va prendre la place de Gouillouris en équipe de France et je pense qu'il y aura une place à prendre en club aussi.
Le souci, c'est que quand tu te places à la place du club, si tu prends 15 millions, ça te permet d'acheter un gardien.
Mais là, tu peux le prolonger. Et puis, en tirer de l'argent.
Non, il veut pas prolonger. Il veut un nouveau
gardien. Il veut un gardien prometteur dans l'effectif.
Oui. Lequel, dis-nous?
Chevalier, moi je le suis un petit peu, c'est le troisième gardien derrière Karnezis, mais il a fait quelques grosses performances.
Ouais, mais il a 19 ans.
Ouais, il est jeune.
Je sais pas, en tout cas, les gars, franchement, là, je vois bien le Napoli sauter le Milan pour la quatrième place. J'aurais du mal à comprendre que tu quittes un club qui est champion, qui va aller en Champions pour un club qui joue l'Europa League.
Ouais, mais c'est le Milan, c'est quand
même. Comment toi?
Si j'ai le temps de finir sur un dernier petit point.
Vas-y.
Pour parler un petit peu des Lensois, tout ça, je pense que comme ce soir, faut arrêter de rager, faut arrêter de pleurer. Je veux dire, sur le penalty, la faute, elle se passera au milieu de terrain. On dirait, il y a faute, il y a pas de problème. Là, bah oui, il fait une faute sur Bamba, il y a penalty, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et puis, sur le carton rouge, il prend un jaune sur un tacle dangereux, il y a pas photo. Et derrière, on dit que le deuxième jaune, il est sévère. S'il lui met un coup du lapin avec son coude, c'est pareil. Donc, je pense qu'il faut, arrêter de pleurer, les décisions ont été avec nous, je défends mon beefsteak, hein, c'est sûr, mais la réaction de l'école, je la trouve abusée, un petit peu trop, on va dire, émotive, à mon goût. Mais quoi, c'est pour mettre ma petite quenelle au Lensois.
Justement, les Lensois, on va les accueillir parce qu'il leur faut une droite de réponse, bien sûr, à tes propos. David, merci David.
Salut David.
Avec plaisir.
Tu vas avoir un enfant bientôt ou pas? Non, t'as des enfants? Non, toujours pas.
Non, pas encore.
Tu vas l'appeler Bourak si t'as un garçon.
D'ailleurs, j'allais juste finir aussi après Lille Paris. On m'avait promis le maillot de Jonathan David. Voilà, s'il y a moyen d'avoir le maillot du Kral, ça m'arrange aussi.
Alors nous, on peut rien faire, mais rapproche-toi du LOSC et du service communication du LOSC.
Via Jean Baumel, on m'avait dit ça.
C'est noté.
On va lancer Jean Baumel, bien sûr.
Ça marche.
Merci beaucoup, David. Excellente soirée à toi, David, dans l'after. Bien sûr. Alors, dans un instant, on va parler de Lens, bien sûr. Messieurs, alors, une info à prendre au conditionnel, vraiment. C'est du off, voilà, qu'on nous a rapporté. L'avenir de Christophe Galtier. À prendre, voilà, avec distance pour l'instant. Il quitterait Lille à l'issue de la saison.
Oui.
Pour l'Italie.
Oui.
Et le Napoli, peut-être.
Oui. C'est, ça me paraît être évident.
Et le Napoli.
Ce serait le Napoli.
Ce serait magnifique.
Ouais.
Ah, ben là, lui, magnifique.
Ouais. Lui au Napoli, t'imagines?
Napoli qui est pas en Ligue des Champions encore, cinquième de série.
Ils n'auraient pas besoin d'un gardien, le Napoli, non? Non, ils ont Neret.
Non, ça va, mais ils sont pas encore sûrs d'être en Champions, mais quand tu regardes le calendrier, tu te dis que le Milan est beaucoup plus en danger.
Oui, bien sûr. Napoli. T'as raison.
On l'a fait là.
Napoli, cinquième de Serie A à 2 points du Milan, hein, 69 points.
Je sais pas s'il parle italien, mais ce serait quand même un challenge magnifique.
Ah là là. Moi, j'ai quand même un petit regret, hein. Je suis content avec son poste.
Il viendra un jour à Marseille.
Moi, ce que j'aurais aimé, c'est que le club attende, finit quitte à finir la saison avec Nasser largué et l'histoire aurait été belle.
Il viendra un jour, l'histoire.
J'espère.
Aussi.
J'espère. Ouais, j'espère.
Tu vois, s'il avait, bon, tu sais que, il y a pas de
vous n'êtes pas surpris, vous, par l'info que je vous donne là?
Non, bah non parce qu'on le savait déjà depuis la semaine dernière.
Oui, mais c'est en train apparemment de se préciser.
Déjà, enfin, ça... ce serait surtout magnifique pour lui.
Mais c'est un bon club et c'est un effectif qui a de la qualité ou qu'il va falloir peut-être un petit peu étoffer et enrichir.
Ça va être dur en Ligue des Champions
la
prochaine.
Il y a une équipe qui a de la gueule, je trouve.
Voilà pour le LOS. Dans un instant, on parle du Racing Club de Lens. On écoutera Jean-Louis Leca, énorme coup de gueule du gardien lensois, bien sûr. On vous attend aussi, supporter lensois. Geoffrey, Mickaël sont déjà là. A tout de suite, c'est l'after. Jonathan McCarty, Kevin Diaz, on est ensemble jusqu'à minuit.